Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé deux méthodes différentes. Une méthode qu'on a qualifiée d'expertise et une autre méthode pour laquelle on a travaillé avec des mathématiciens pour monter un modèle probabiliste qui nous donnait une probabilité d'extinction pour chaque espèce de notre échantillon. Alors en fait, on a travaillé de la manière suivante. On a construit un échantillon de 200 espèces qu'on a pris au hasard, qui vivent partout dans le monde. Et pour ces 200 espèces, on a récolté toutes les informations qu'on pouvait pour mesurer leur statut de conservation. Donc on a fouillé la littérature scientifique, on a fouillé les collections des musées, parce que dans les musées, on trouve des spécimens dans des boîtes où il y a écrit que l'espèce a été récoltée à tel endroit, à telle date. Et ça nous aide à savoir si l'espèce était vivante ou pas à un instant T. Et on a consulté des experts qui étaient soit spécialisés dans une famille particulière, soit spécialisés dans une région du monde. Et pour chaque espèce de notre échantillon de 200 espèces, on leur demandait leur avis pour savoir si l'espèce était encore vivante, si elle était selon eux déjà disparue, ou alors est-ce qu'ils nous disaient qu'ils ne pouvaient pas se prononcer, parce qu'ils ne savaient pas. Donc ça, c'est la méthode qu'on a appelée expertise. Et à l'issue de cette expertise, on a trouvé qu'il y avait 20 espèces de notre échantillon qui étaient éteintes. Donc ça faisait 10%. Et comme cette méthode expertise, c'est quelque chose d'assez subjectif finalement, on a voulu travailler avec des mathématiciens pour qu'ils nous aident justement à construire ce modèle probabiliste qui nous aiderait à savoir si les espèces de notre échantillon étaient éteintes ou pas. Et pour ça, on a travaillé avec les dates de collecte auxquelles les 200 espèces de notre échantillon avaient été récoltées dans la nature. Donc on est parti du principe que si par exemple une espèce de notre échantillon avait été récoltée tous les 10 ans jusqu'en 1950 et elle n'avait plus été récoltée après, alors que dans la même région, nous, on trouvait des dates de collecte d'escargots jusqu'à nos jours, on partait du principe qu'il y avait une forte probabilité que l'espèce soit disparue. Parce que si elle avait encore été là, étant donné qu'il y a d'autres espèces d'escargots qui avaient été récoltées dans la même région depuis, on l'aurait trouvée. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ces résultats sont assez concordants avec les résultats de la première méthode qui était basée sur l'expertise.
La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature recense seulement 1,3% d'extinction chez les mammifères et les oiseaux. Pourquoi?
Les mammifères et les oiseaux, il y a des mesures de préservation, des plans de conservation qui existent pour les protéger. On construit des réserves naturelles, on met en place des plans de reproduction en captivité, etc. Et donc, quand on mesure qu'il y a 1,3% d'extinction chez les mammifères et les oiseaux, on mesure pas seulement l'extinction normale, mais on mesure aussi l'efficacité des mesures de conservation. Or, quand on mesure les taux d'extinction chez les invertébrés, comme les invertébrés ne font pas l'objet de plans de sauvegarde et de conservation, on a une mesure brute de l'extinction chez eux. Et en plus, des invertébrés ont des facteurs qui les rendent parfois plus sensibles que les mammifères et les oiseaux à l'extinction. La plupart des invertébrés, c'est des espèces qui sont toutes petites, qui sont rares, qui vivent dans des habitats très très spécialisés, qui en général sont endémiques d'habitats très spécifiques ou d'endroits très restreints, comme des petites îles en Polynésie ou dans l'océan Indien ou partout où on veut. Et du coup, ça les rend plus sensibles à l'extinction que certaines espèces de mammifères et d'oiseaux qui finalement ont, relativement par rapport aux invertébrés, ont des grandes aires de répartition et donc, comme je disais avant, sont aussi protégées.
Les invertébrés, en fait, sont beaucoup plus difficiles à localiser. Donc, ça expliquerait, en fait, pourquoi on souffre d'un déficit de connaissances à leur sujet, non?
Alors, on souffre d'un déficit de connaissances, pas seulement pour ça, mais aussi parce qu'on a une main-d'œuvre pour travailler sur les invertébrés qui est beaucoup plus petite que celle qu'on a pour travailler sur les vertébrés supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui est sorti dans une étude qui est parue en 1992 qui est assez effarant par rapport à ça. Il y a des chercheurs qui travaillent en zoologie, ils ont fait des statistiques et ils sont aperçus que pour un chercheur qui travaille sur un groupe d'invertébrés, proportionnellement, il y en a 100 qui travaillent sur des vertébrés supérieurs. Et ça, c'est en plus contrebalancé par le fait que les mammifères et les oiseaux, c'est 1% de la biodiversité. Donc, non seulement il y a moins d'animaux, mais en plus, ils ont 100 fois plus de chercheurs qui travaillent sur eux. Et alors que nous, on a une diversité d'espèces chez les invertébrés sur lesquelles récolter des données qui est monstrueuse, et on a 100 fois moins de main-d'œuvre. Donc c'est aussi pour ça qu'on souffre d'un déficit de connaissances pour les invertébrés.
Et est-ce que les chercheurs alors recommandent certaines choses pour la préservation des espèces ?
Alors pour les invertébrés, c'est directement lié à un déficit de connaissances et qui ne nous facilite pas la tâche, c'est que la majorité des espèces d'invertébrés, on les connaît très mal. Ce qui implique qu'on connaît très mal leur biologie, on connaît très mal leur écologie. Et souvent, on ne sait pas ce dont elles ont besoin et du coup, on ne sait pas quel plan de conservation ou de préservation mettre en place. Il faudrait déjà récolter les connaissances suffisantes sur ces animaux pour pouvoir mettre en place des plans de conservation. Alors, il y en a quelques-uns qui existent, mais ils sont très, très rares. Par exemple, en France, il y a un escargot endémique d'une toute petite plage à côté d'Ajaccio, en Corse, qui fait l'objet d'un arrêté de biotope. Et il est protégé dans tout son habitat parce qu'il ne vit plus que sur quelques hectares et ces quelques hectares sont protégés. Ou par exemple, en Polynésie française, il y a des chercheurs qui travaillent sur une famille qui s'appelle les Partulidés. Et ils travaillent à essayer de les faire se reproduire en captivité pour essayer de pouvoir les réintroduire dans leur milieu parce que les populations de Partulidés se sont fait dévorer par un escargot carnivore qui a été introduit dans les îles du Pacifique.